sommes obligés de commencer ponctuellement. La matière est lourde. Donc, pour commencer, j'ai rédigé ce résumé. C'est un résumé d'à peu près 11 pages. Je n'en dirai pas la moitié, parce que il y a une partie de qui n'a pas éminemment trait avec la réforme en elle-même, mais c'est plutôt de la biographie. L'essentiel est dit dans le texte. Et comme Nathanaël l'a dit ce matin en annonçant que nous avions cette réunion ce soir, on dépassera certainement quelque peu l'horaire. Et parce que j'ai dû réduire passablement le thème, puisque la réforme en elle-même est quelque chose d'immense. Et quand j'ai commencé de consulter tous les livres, enfin une partie des livres qui en parlent, eh bien, j'ai dû y renoncer. Et j'ai demandé aux frères de m'accorder la bienveillance de ne parler que de la réforme en Suisse. Et c'était déjà beaucoup. Et j'ai deux ou trois questions préliminaires à éclaircir. Premièrement, c'est un nota bene que j'ai mis à la fin du commentaire qui vous sera remis. J'ai dit ceci. Les notes réunies sous le titre « La réforme en Suisse » ne sont pas une étude englobant les multiples caractères de la réforme et ses conséquences. Elles ne sont qu'un survol historique et politique permettant de comprendre l'environnement dans lequel des hommes choisis et formés par Dieu dans un but précis ont pu réaliser le plan conçu pour remettre en lumière les vérités fondamentales de l'Évangile et la vocation de l'Église comme habitation de Dieu par l'Esprit selon Éphésiens 2, 22. De plus, ces notes ne se réfèrent qu'à la Suisse et particulièrement à la Romandie. Et elles seront suivies de 5 réunions intitulées « Sola Scriptura »,« Sola Fide »,« Sola Gratia », »,« Solus Christus » et « Soli Deo Gloria », qui englobent, elles, alors, l'essence même de la réforme. Elles ne peuvent donc être séparées de l'entretien que nous aurons maintenant. Ensuite, avant ce nota bene, il y a la liste de la bibliographie. Et là, il faut que je vous donne une explication. Vous serez certainement surpris, parce qu'il n'y a pas de traité d'éminent exégète, et je vais vous dire pourquoi. Lorsque j'ai commencé de lire toute la bibliographie, une partie de la bibliographie, qui se réfère à la réforme, j'ai fait le constat, plus ou moins amer, que les auteurs avaient des candidats préférés, si je peux dire. Alors, l'un était pour Calvin, l'autre était pour Luther, et s'ils s'étaient contentés que d'être pour, ça aurait été passable, mais ils étaient souvent contre. Alors, il fallait démêler tout ça, et j'y ai renoncé. Et j'ai demandé au Seigneur de me diriger, naturellement, et je me suis tourné vers quelque chose qui est beaucoup plus, éthique. Et j'ai consulté les grands dictionnaires, mais les grands dictionnaires sérieux, pas le petit Robert. Et, n'est-ce pas, l'histoire est une science. Et c'est une science rigoureuse. On cherche les faits, on les établit, et c'est sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Ce sont les faits qui parlent. Je peux le confirmer, puisque j'ai comme ami un historien suisse, qui s'appelle Philippe Gern, et qui a écrit des ouvrages historiques qui sont reconnus. Et la première chose qu'on demande à un historien, c'est la rigueur. Parce que les autres ont des partisans. Alors, je vous cite ce que j'ai consulté. Le dictionnaire encyclopédique d'histoire de Moore, en 5 volumes. Le dictionnaire d'histoire de France de la librairie académique Perrin, sous la direction d'Alain Lecot de l'Académie française. Le dictionnaire du Grand Siècle, sous la direction de François Bluch, prix d'Académie. Le Larousse du XXe siècle, en 6 volumes. Et à la découverte de l'histoire suisse, le docteur professeur Mayer et le professeur docteur Kreis. Voilà. Ayant dit cela, je reviens alors à l'introduction même de la petite étude que j'ai sous les yeux. Et j'ai voulu savoir s'il y avait quelqu'un qui, en somme, avait donné un peu un résumé concis de ce qu'était la réforme. Et alors là, j'ai trouvé quelqu'un que vous connaîtrez probablement, qui est Frédéric Godet. Peut-être que vous avez lu ses études bibliques. C'était un précepteur à la cour de Prusse, précepteur d'un des derniers Kronprinz, et il a été ensuite pasteur à Neuchâtel. Et lui est l'auteur d'une biographie de Farel. Biographie de Guillaume Farel. Et voilà ce qu'il dit au sujet de la réforme. En 1512, Lefebvre, à Paris, professeur à l'Université de Paris, opposait à la justice des œuvres la vraie justice dont parle saint Paul quand il dit « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi ». Et il annonçait en termes non couverts le prochain renouvellement de l'Église. 1512. En 1516, Ulrich Zwingli, sans avoir jamais entendu prononcer le nom de Lefebvre, prêchait dans les églises d'Einsiedeln et de Glaris, au cœur de la Suisse, le pur évangile de la grâce de Dieu. J'ai commencé, dit-il, à prêcher l'évangile en l'an de grâce 1516, alors qu'il était curé. En 1517, au nord de l'Allemagne, aux oreilles de qui n'avait probablement jamais retenti les noms ni de Lefebvre ni de Zwingli, Luther affichait à la porte de l'église de Wittenberg ses 95 thèses qui parcoururent l'Allemagne et l'Europe avec une rapidité qui semble une anticipation de nos temps et furent pour le nouveau paganisme que menaçait de submerger l'église le solennel « Tais-toi » du Seigneur en Marc 4, 39, lorsqu'il s'adresse au flot. Conclusion, cette simultanéité remarquable du mouvement réformateur sur des points aussi distants montrerait à elle seule que cette œuvre ne fut pas une œuvre d'un homme, mais celle de Dieu seul. Frédéric Godet. Et puis quand même, j'ai pensé qu'il fallait trouver quelqu'un parmi nous. Frère, un certificat sur la réforme, et je l'ai trouvé, curieusement, de la part de M. Larbi. Et voilà ce qu'il dit. Nous avons ensuite, après une étude de diverses étapes, le protestantisme. Je ne dis pas la réformation comme œuvre du pouvoir actif de Dieu par le Saint-Esprit, œuvre du pouvoir actif de Dieu par le Saint-Esprit, mais le protestantisme comme le grand résultat public parmi les hommes dans la chrétienté professante. Et cela, il le dit dans l'appendice aux méditations sur les sept épîtres prophétiques de l'Apocalypse. Voilà. Alors maintenant, nous pouvons commencer à parler de la réforme. Et j'en dirai deux mots en Suisse allemande, puisque, oui, Suisse allemande. Et c'est en 1519, donc après Lefebvre et après que Zwingli ait quitté le catholicisme, que la réforme fut introduite en Suisse par Ulrich Zwingli, prédicateur à Zurich, né en 1484 à Bildhaus, dans le comté de Toggenburg, et mort en 1532, donc à 47 ans. Il n'était pas bien vieux. La bataille de Cappel. Fils d'un magistrat municipal de village, Zwingli fut élevé par les soins d'un de ses oncles, riche ecclésiastique, et qu'il envoyait étudier à l'université à Bâle, puis à Berne, puis à l'université de Vienne. Ardent humaniste. Et alors là, je vais m'arrêter sur ce mot humaniste, parce que nous le retrouverons chez presque chacun des réformateurs. Il y a eu une curiosité au début de ce siècle d'aller plus loin que ce que l'on connaissait en parlant, en se référant toujours aux auteurs latins. Et alors, il y a eu une curiosité intellectuelle, purement intellectuelle, parce que tous les humanistes n'ont pas été des réformateurs, ni ne se sont pas convertis, bien sûr. Mais c'est cette tendance qui a conduit les gens à rechercher les véritables origines d'un nombre considérable d'écrits pour rechercher l'origine véritable de ce qui était à ce moment-là. Il y avait donc, d'une part, ce désir de recherche, et d'autre part, la méfiance que, évidemment, qui parlait à ce temps-là ? C'était la majorité, la science était dans les couvents. Et alors, ils ont voulu rechercher la véritable origine. Et on verra que plusieurs ont fait des études non seulement de grec, mais d'hébreu, pour être sûr que ce qu'ils avançaient, c'était sur des fondements sérieux. Alors, il fut d'abord curé à Glaris, puis prédicateur à Einsiedeln, et c'est là, en qualité de prédicateur, qu'il s'est élevé contre le célèbre pèlerinage qui, je crois, dure encore, de Notre-Dame des Ermites, dont il fit enterrer les reliques, affirmant que le salut ne procède que de lieu seul, d'où l'inutilité des pèlerinages. Alors, j'ai voulu, par curiosité, m'assurer que cette information était correcte, et je me suis mis en contact avec le couvent d'Einsiedeln, et par deux fois, j'ai eu la même réponse. Les reliques n'ont jamais quitté le couvent. Alors, je me suis permis de dire, je ne prétends pas cela, mais ont-elles été enterrées ? Elles n'ont jamais quitté le couvent. J'ai compris, j'ai passé. Et depuis, alors, il s'est mis à, justement, tout en remplissant consciencieusement son ministère, il se livra avec passion à l'étude du grec et de l'hébreu pour étudier les textes classiques des pères de l'Église, comme aussi d'autres exégètes modernes. Et puis il a été à Rome, au service du pape Léon X, il a assisté à la bataille de Marignan, en 1515, et il a considéré que la défaite des Suisses à Marignan avait une raison. C'était celle d'avoir combattu pour une autre cause que la défense de sa patrie. Il aurait légitimé la guerre si c'était contre des ennemis. Mais aller la faire contre des gens qui n'avaient rien à faire avec la Suisse, lui considérait ça comme un péché. Voilà, je vous dis ce qu'il pense. En 1518, son éloquence le fit appeler à Zurich pour prêcher à la cathédrale, c'était alors la Grosse Münster, Et dès 1519, dans ses conférences sur le Nouveau Testament, il commence à dévoluer vers la réforme en réfutant les rites et les usages ignorés par la Bible. Et comment définissait-il la Bible ? La seule autorité irrécusable de la volonté de Dieu. La seule. Et il faut considérer que Zwingli a été plus exigeant que Luther dans la stricte interprétation de la parole. C'est ce qui l'a amené aussi à être plus radical dans les manifestations extérieures de la réforme. Par exemple, la première grande discussion qu'il a eue, c'était ce qu'on appelle, enfin, ce que les exégètes appellent l'affaire des saucisses. Et c'était une circonstance qui s'est déroulée au carême de 1522. Mange-t-on des saucisses ? A-t-on le droit de manger de la viande pendant le carême ? Alors évidemment, Zwingli a cherché dans toute la Bible où il était parlé de carême et de saucisses, il n'a pas trouvé. Et il s'en est référé à Romains 14 et à 1 Corinthiens 8, n'est-ce pas, où nous avons la direction que l'Esprit nous donne au sujet des viandes. Et il a dit, ben voilà, voilà ce que la Bible dit, je n'en dis pas davantage, faites ce que la Bible dit. Alors certains se sont abstenus, d'autres en ont eu la liberté de manger, mais enfin, ils se basaient sur la Bible. Alors, ils voulaient une religion épurée de toutes les traditions historiques, de l'autorité papale, du culte de la Vierge, de celui des saints, la suppression des images, des statues, des orgues, et du point de vue doctrinal, à la différence de Luther qui mettait surtout l'accent sur la justification par la foi seule, selon l'Épître aux Romains, Zwingli mettait en parallèle, il gardait cet élément essentiel, mais il mettait en parallèle l'invincible volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, la justification par la foi, mais de l'autre côté, la volonté de Dieu, la grâce. Et c'est sous son égide, à la fin de 1523, qu'il y a eu alors une véritable explosion iconoclaste. Les riches églises de Zurich furent pillées, les images et les statues supprimées, et avec l'appui du Conseil de Zurich, la messe fut abolie dès avril 1525. Il n'a donc pas perdu son temps, M. Zwingli. Il était beaucoup plus... Alors que Luther était fermement sacramentaire, il s'est longtemps attaché au sacrement. Zwingli commença la messe, remplaça la messe par la scène, consistant désormais en une commémoration symbolique de la mort du Christ, comme il l'expliqua dans son commentaire « Commentarius de vera e falsa religione ». Il ne conservait donc plus que deux sacrements, et c'est ce qu'on a encore aujourd'hui, le baptême et la scène, sur les sept qui était établi par l'Église catholique, éliminant la confirmation, la pénitence, l'extrême onction, l'ordre, c'est-à-dire les ordres religieux, n'est-ce pas, qui étaient des sacrements, l'ordre religieux et le mariage. Et la controverse entre les deux réformateurs a abouti au colloque de Marbourg en 1529. Alors, maintenant, il faut encore que je vous dise quelque chose. C'est que dans le corps de ce texte, vous trouverez passablement de noms de personnes. Celles qui sont précédées par un astérisque signifient qu'à la fin du document, dans les pages 8 à 12, vous trouverez une courte bibliographie. Mais en outre, j'ai aussi recopié justement ce qui se rapporte à ce fameux colloque de Marbourg, pas en entier, mais les points principaux, et puis celui de la dispute de Lausanne aussi. J'ai copié les conclusions, parce que c'est ça qui importe. C'est sur la base de ces réunions, colloques et disputes que s'est établi ensuite des procès-verbaux qui ont décidé du maintien ou non de la messe ou de la religion catholique. Alors, au colloque de Marbourg, les deux positions, celle de Zwingli et celle de Luther, se sont opposées farouchement. Et Luther a persisté dans sa croyance de la présence corporelle de Christ dans l'Eucharistie. Et il se basait là-dessus, il se basait sur ce verset, n'est-ce pas ? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc ce que nous mangeons est le corps du Seigneur et le sang du Seigneur. Alors, il admettait bien que l'hostie était du pain et du vin, mais qu'à un moment donné, par un miracle invisible, n'est-ce pas, il y avait la présence dans cette hostie, la présence de Dieu. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas la transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est de croire que vraiment le pain et le vin se transforment à un moment donné en chair et sang du Seigneur. Mais ça, c'est la consubstantiation. C'est-à-dire qu'on reconnaît la substance, mais qu'à un moment donné s'ajoute la présence du sang et du corps du Seigneur. Alors là, ils se sont séparés sans pouvoir se mettre d'accord. Et vous trouverez comment ils ont réussi à rédiger ce colloque de Marbourg. Après tout, je pourrais vous le lire tout de suite. Attendez si je le trouve. Colompel. Non, je ne le trouve pas. Vous le trouverez. Alors, dans ces circonstances, n'est-ce pas, la Suisse, des 13 cantons, dans la Suisse des 13 cantons, il y avait 7 cantons qui demeuraient fidèles au catholicisme. Et ça leur donnait la majorité à la diète. Alors, Zwingli a pensé prendre les armes et il a conclu pour cela une alliance avec les cantons réformés et la ville de Constance, tandis que les catholiques faisaient appel à l'Autriche. Je vous rappelle que en Autriche régnait à ce moment-là Charles Quint. Et l'empereur Charles Quint, jusqu'à sa mort, a été un champion du catholicisme. Il a lutté même sauvagement en faveur du catholicisme. Bon, naturellement, sauf quand les Turcs l'attaquaient. Là, il était plus prudent vis-à-vis des réformés. Mais sinon, il luttait contre eux. Et alors, cette majorité lui déplaisait, il a pris les armes, et puis il y a eu des gens raisonnables, c'est-à-dire les Glaronnais en particulier, qui se sont mis entre les deux camps, qui ont dit « mais faisons la paix ». Alors ça a été la première paix de Capel, c'est-à-dire Capel am Albis, le 25 juin 1529, et c'est là qu'a été mangée la fameuse soupe au lait. Et j'ai voulu contrôler aussi. Et c'est juste. Et c'est ce qui a fait dire à ceux qui est aux alliés, c'est-à-dire aux gens de Constance, etc., qui ne connaissaient pas trop les Suisses. C'était quand même magnifique. Après s'être bien battu, ils se mettaient tous ensemble autour d'un caclon pour manger la soupe au lait. C'était vraiment digne d'être remarqué. Mais voilà, M. Zwingli n'a pas été satisfait. Il voulait que le protestantisme puisse être prêché partout, dans tous les bailliages, sans restriction. Alors il a repris les armes, 2 ans plus tard. Et alors, il a repris les armes en 531, et il était, lui et ses troupes, ils ont été battus, et il a trouvé la mort sur le champ de bataille de Capel, le 11 octobre 1531. Et cela permettait aux catholiques de rétablir le culte dans les bailliages communs. Et la seconde bataille de Capel et la paix qui s'ensuivit consacrèrent donc la division religieuse de la Suisse. C'était maintenant un fait. Il y avait des cantons catholiques, des cantons protestants, des cantons mixtes. Les 4 réformés étaient Zurich, Bâle, Berne et Schaffhouse. Il y en avait 7 catholiques, Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerne, Zug, Soller et Fribourg, et 2 cantons mixtes, Appenzell et Glaris. Et cette composition ne devait pas varier jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Elle était complétée, bien sûr, par des pays alliés, n'est-ce pas ? Les Grisons, le Valais, Saint-Gall, Neuchâtel, le Rheintal et le Toggenburg, n'est-ce pas ? Et des bailliages communs, Argovie, Gaster, Sargans, Turgovie, les vallées tessinoises, et par des villes alliées, des villes qui étaient indépendantes, qui étaient des pouvoirs, n'est-ce pas ? Et dont les 3 principales étaient Bienne, la ville de Bienne. Après, elle a été propriété des évêques de Bâle qui étaient princes d'Empire, Mulhouse, qui était associée à la Suisse, et Constance. Voilà pour la Suisse allemande. Je n'irai pas plus loin. Je commence maintenant avec la Suisse romande. Dans les cantons, je vais donner un cadre politique et géographique. Dans les cantons qui composent aujourd'hui la Suisse romande, la situation a été moins perturbée et moins violente que dans les cantons alémaniques. Commençons par le nord. Ce qui constitue aujourd'hui le canton du Jura était au moment de la réforme la possession des évêques de Bâle qui étaient eux-mêmes princes du Saint-Empire. À la proclamation de la réforme à Bâle en 1529, l'évêque quitta la ville tout simplement pour s'établir à Port-Rentruy avec ses possessions. Je pense que Moutier en était. Et il a quitté la ville avec ses possessions, Bienne, la Neuville, quelques autres seigneuries, et tout simplement, il est resté l'allié des cantons catholiques. Il en alla de même du Valais, allié des cantons d'Uri, d'Unterwald et de Lucerne dès 1416. Et en revanche, le traité de Combourgeoisie signé en 1426 entre Berne et le comté de Neuchâtel, à ce moment-là, Neuchâtel n'était pas encore principauté. Elle était la possession des descendants des comtes de Fribourg-en-Brisgau, dont la fameuse Johann de Hochberg, qui d'ailleurs a une rue à Neuchâtel depuis à peu près une dizaine d'années, c'était un comté. Et comme possession des comtes de Fribourg-en-Brisgau ou de leurs descendants, ils étaient catholiques. Mais comme ils étaient alliés de Berne, au moment, n'est-ce pas, de l'acceptation de la réforme à Berne, eh bien, ils sont tombés ipso facto dans le camp des réformés. Ensuite, l'autre grand point, Genève. Durant des siècles, la ville de Genève a eu à lutter successivement et parfois simultanément contre les ducs de la maison de Savoie, dont les possessions englobaient totalement la ville, n'est-ce pas, la Savoie, le pays de Gex, le canton de Vaud. Genève était pris dans un étau complètement catholique. Et par les évêques, elle devait lutter contre ses propres évêques parce que les ducs de Savoie arrivaient à mettre sur le trône épiscopal de Genève dès lors. Donc, souvent, l'évêque de Genève était un prince de la maison de Savoie. Alors, un premier traité de Combourgeoisie en 1519, vous voyez, c'est toujours ces dates du début du siècle. Hein. Avec Berne et Fribourg, a été de grande utilité en 1530, puisqu'il a forcé le duc à reconnaître l'indépendance de la ville. Et dans le pays de Vaud, l'évêque de Lausanne, également prince de l'Empire, conservait une certaine autorité temporelle sur la ville. Mais dans le reste du canton, les villes rares et assez peu peuplées jouissaient de diverses franchises et s'organisaient un petit peu comme des petites républiques. À Moudon résidait un bailli chargé de réunir les États de Vaud en sa qualité de représentant de l'autorité savoyarde qui allait en s'affaiblissant au profit des confédérés helvétiques dont Berne et Fribourg, qui étaient riches, très riches, étaient acquéreurs de bailliages. C'est ainsi que Orbe, Échallant, Granson et Aigle étaient des bailliages fribourgeois et bernois. Et les Bernois, et c'est pour cela que quand le duc de Savoie vint bloquer Genève en 1530, les Bernois, à l'appel de leurs frères protestants, accoururent pour les secourir et profitèrent en passant de conquérir le pays d'eau, où le catholicisme fut éliminé en 1536. Donc, maintenant, nous avons le cadre politique géographique bien clair. Et c'est dans ce cadre qu'apparurent les principaux réformateurs. Et je vais les citer dans leur ordre d'arrivée, n'est-ce pas, sur la scène. Le premier est Guillaume Farel, en 1526. Le second est Pierre Viret, en 1531. Le troisième est Jean Calvin, 1536. Donc, vous voyez, chaque fois à 5 ans de distance. Et le quatrième est Théodore de Bèze, qui, alors, lui, était plus jeune, est arrivé plus tard, en 1549. Alors, j'aimerais vous faire remarquer, en passant, que en Suisse alémanique, ils sont tous Suisses, sauf celui qui était à Bâle, qui s'appelait et Colompad, mais en Suisse romande, ce sont des Français, sauf Farel. Que dis-je, sauf Viret. C'est la seule exception. Alors, le premier, Farel, qui est, disons, on pourrait dire, une sorte de moteur. C'est un moteur, Farel. Des autres auront d'autres qualités, mais lui, c'est le moteur. Et il arrive en 1526, échappant à la poursuite de nombreux ennemis et après de multiples péripéties, il arrive, et alors ça, c'est une estimation d'un dictionnaire, donc elle est à prendre au sérieux, ce n'est pas celle d'un partisan. Comment désigne-t-il Farel ? Le premier est le plus vaillant missionnaire de la Réformation française. C'est un titre, hein ? Et alors, il arrive et il se réfugie en Suisse à l'âge de 37 ans. Alors, lui avait déjà une carrière derrière lui. Et l'Allemagne et la France lui étaient fermées. L'Allemagne, parce qu'il ne parlait pas un traître mot d'allemand, et la France, parce qu'il y était persécuté. Et il est allé à Berne, où pasteur Berthold Haller, vous trouverez sa petite bibliographie après, lui conseilla d'aller s'établir dans là où on parle le français, et il lui a conseillé Aigle, qui était un bailliage récemment acquis par Berne. Alors c'est sous le nom de Maître Ursin. Ursin, ben bon, on sait bien que Berne est la ville des eaux. Je pense qu'il y a une petite réminiscence là. Il s'en est emparé et il est allé habiter Aigle et il a commencé à rassembler premièrement les enfants pauvres pour leur enseigner à lire. Et le soir, il rassemblait les pères de famille pour leur expliquer la Bible. Ces gens ne la connaissaient pas. Elle était en latin. Alors il la leur lisait et il la leur expliquait. Et il s'est formé bientôt un espèce de petit groupe évangélique, n'est-ce pas ? Ce qu'apprenant, le conseil de Berne lui fit parvenir en mars 1527 des lettres patentes par lesquelles il était nommé pasteur à Aigle. Mais voilà, quelque temps après, il a confessé qu'il n'était pas Maître Ursin, qu'il était Monsieur Guillaume Farel. Et puis, devant la population effarée de la ville d'Aigle, il a commencé de prêcher Christ et l'Évangile. Alors, ça a causé une révolution et il a dû s'enfuir. Mais il y a eu ensuite une petite dispute avec un, qui n'a pas beaucoup d'importance, avec un moine mendiant qu'il avait injurié, si bien qu'il est revenu à Aigle. Et puis alors là, la population a voté pour lui. Il y a une votation et dans les quatre districts du bailliage, Aigle, B et Olon se déclarèrent pour l'abolition de la messe et les Ormonds pour la garder. Et alors là, Farel, qui avait une vocation de puissant évangéliste, a couru des dangers en voulant aller dans les Ormonds. Il a dû échapper avec peine à la persécution. C'est écrit en détail. Et la preuve, c'est qu'en mai 1527, après avoir fait une douloureuse expérience dans laquelle il a manqué perdre la vie, il a écrit cette remarque dans une lettre. Une charité fervente, c'est-à-dire la charité dans ce moment-là, il fallait le comprendre comme l'amour. D'ailleurs, par les catholiques, souvent, le mot « amour » est remplacé par le mot « charité ». Et alors, une charité fervente. Voilà le bélier puissant avec lequel nous pouvons abattre les orgueilleuses murailles de la papauté. Non, ce n'est pas par la violence, c'est par la charité. Après de nouveaux essais d'évangélisation infructueux à Morat, à Lausanne, Farel a connu un des sommets de sa carrière en participant à la grande dispute de Berne. Figurez-vous qu'à Berne, ils ont réuni du 7 au 25 janvier, ces 15 jours, 350 ecclésiastiques confédérés et étrangers, au cours de laquelle, il faut bien le reconnaître, l'éloquence de Zwingli et de Haller et celle de Farel aboutirent à la proclamation officielle de la réforme dans le canton de Berne et toutes ses possessions. Alors il a repris ensuite inlassablement son combat, enseignant à Orbe, Grandson, Morat, Lausanne, Payerne, Avenches, La Neuville, mais là, ça s'est gâté. La Neuville était possession du prince-évêque de Bâle, et alors, il a dû s'enfuir très rapidement. Et là, de nouveau, il a connu pratiquement, il a vu de près la mort. Et cette fuite le conduisit pour la première fois, en 1528, pour la première fois à Neuchâtel. Alors, Neuchâtel sera plus tard comme le couronnement de sa carrière. Ce n'est pas Éric Guignard qui va me contredire. Et c'est là qu'il y reviendra. Et Neuchâtel adoptera la réforme en 1530. Mais entre-temps, après sa première étape à Genève, entre 1532 et 1536, il avait engagé une délégation de pasteurs à participer à la dispute de Lausanne. Et cette dispute de Lausanne, elle est également en annexe, vous la trouverez. Lausanne est désignée comme nouvelle province de Berne. Eh bien, dans cette nouvelle province de Berne, là, de nouveau, le ministère de Farel a brillé. Et alors, cela a abouti à l'adoption de la réforme dans tout le pays de Vaud. Et après l'étape essentielle de son ministère à Genève, Farel reviendra à Neuchâtel, qu'il considérait comme le centre du rayonnement de la réforme, avec école, collège, académie et projets. Malheureusement, tous ces projets, il n'a pas pu les réaliser. Il parvint toutefois à installer à Neuchâtel un certain Pierre de Vingles, qui est le premier imprimeur réformé, et malgré l'opposition d'une partie de la population, il deviendra le premier pasteur de la ville. Et il le restera jusqu'en 1565, à l'âge de 76 ans, tout en voyageant souvent parmi les confédérés et parfois en France, à Metz, à Meaux et Strasbourg. Voilà l'essentiel du ministère de Farel seul, ou plus ou moins seul. Maintenant, nous allons assister à une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, c'est la naissance d'un triumvirat. Le mot est attribué à un certain Martin Bucer, je pense que ça doit être Bucer ou Bucer, B-U-C-E-R, 1491-1552, qui est un éminent exégète allemand, professeur de théologie à Strasbourg pendant 20 ans, et ensuite à Cambridge, en Angleterre, où il est mort. Alors, entre 1532 et 1536, c'est surtout à Genève que Farel prêcha. Et après un premier accueil hostile, il a toutefois gagné assez d'adeptes pour qu'en 1536, le Conseil général de Genève adopte la réforme. Entre-temps, l'évêque Pierre de la Baume, qui avait tenté d'éliminer Farel, parce qu'il a toujours couru des dangers. Il faisait beaucoup de bruit. Et alors, on tâchait de l'éliminer. Pierre de la Baume a quitté la ville en 1533. Cependant, entre-temps, dans une de ces campagnes d'évangélisation, Farel avait rencontré à Orbe un jeune homme de 19 ans, nommé Pierre Viret, fraîchement revenu de Paris, où il avait étudié la prêtrise au collège Montaigu. On étudiait jeune dans ce temps-là. Il avait déjà fini ses études à 19 ans. Et naturellement que Farel, le flamboyant Farel, l'a convaincu de devenir alors prédicateur réformé. Et le premier prêche de Viret, il avait tout juste 20 ans, eut lieu le 6 mai 1531 à Orbe. Alors il devint le prédicateur attitré de cette ville, tout en évangélisant dans toute la Suisse romande, en gardant un contact étroit avec celui qui était quand même son mentor, n'est-ce pas, avec Guillaume Farel, qui l'engagea plusieurs fois également à Neuchâtel pour diverses campagnes. Et au début de 1536, Viret fut alors nommé pasteur à Lausanne. Donc, Lausanne était déjà sous la domination bernoise. Hein, attention, il l'avait conquise. Donc, les Bernois savaient toujours... J'ai remarqué ça, c'est faux, ce que les autorités étaient au courant de ce qui se passait. Je ne sais pas comment ils faisaient. Ils n'avaient pas les moyens qu'on a maintenant, mais ils savaient tout ce qui se passait. Et alors, la réputation de ce jeune Farel était arrivée. Ils ont dit, ça y est, celui-là, il faut le mettre à Lausanne. Alors, ils l'ont mis à Lausanne. Afin d'activer l'implantation de la réforme. Et... au mois d'octobre de la même année, il participa dans cette ville, sous la houlette de Farel, toujours, bien sûr, à la célèbre dispute de Lausanne, dont je vous ai déjà dit que vous avez une copie. Il y prit part, une part active, tandis que Jean Calvin, qui venait d'arriver de Ferrare, s'est tenu un petit peu réticent, dans l'ombre. Et dès lors, les bases du triumvirat étaient posées. Un éminent théologien de 27 ans, Calvin, un vibrant évangéliste de 47 ans, Farel, et un pasteur de 25 ans, Viret. Et alors, plus tard, le grand Théodore de Bèze dira ceci. Écoutez bien, c'est délicieux. Les gens de France, parce que les trois ont eu autant d'influence en France qu'à Genève, hein, les gens de France ont admiré Calvin parce que personne n'enseigna plus doctement. Ils ont admiré Farel parce que personne ne tonna plus fortement. Mais ils admirent encore Viret répandant son miel parce que personne ne parla plus suavement. Eh bien, comme certificat, c'est magnifique. On devrait pouvoir dire de ça de chaque assemblée. Quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui tonne, mais quelqu'un aussi qui parle suavement de la grâce. Voilà les hommes que Dieu utilisa. Voilà les hommes qu'il forma selon les dons particuliers, parce qu'ils étaient extrêmement différents de chacun d'eux pour que le rayonnement de l'évangile de la grâce s'étende de Genève sur de très nombreuses contrées. Alors, comme nous l'avons vu, Farel, après avoir... convaincu Viret et Calvin de s'établir à Genève, lui, après, il s'en retire définitivement pour se dédier entièrement à Neuchâtel, sauf quelques rares voyages, toujours comme prédicateur, et une intense activité sociale en faveur des pauvres en particulier. Et aussi la création... en faveur des pauvres, pardon, excusez-moi. Pierre Viret, lui, durant son pastorat à Lausanne, avait largement contribué à la création de l'Académie en 1537. Et c'est là qu'il avait accueilli Théodore de Bèze, qui arrivait de France. Cependant, le gouvernement bernois, selon la conception de Zwingli, soumettait l'Église à sa décision, à sa suprême autorité, et refusait, oh merci, et refusait à virer le pouvoir d'excommunier les pécheurs scandaleux. J'ai mis les pécheurs scandaleux comme ça parce que j'ai voulu chercher partout qu'est-ce qu'ils avaient bien pu faire comme péché pour être appelés les pécheurs scandaleux. Je n'ai pas trouvé. Et puis, je n'ai pas trouvé dans la Bible non plus. Mais voilà. Alors, Viret a été soutenu par Calvin. Calvin lui a dit, le gouvernement n'a pas à intervenir dans les décisions d'Église. C'est l'Église qui décide de cela. Alors, évidemment, c'est mal parti pour Viret. Et il a été incarcéré, il a été destitué, puis il a été banni du canton de Vaud. Alors c'est là que plus tard, il a suivi le conseil de ses médecins, il a poursuivi sa carrière d'abord dans le sud de la France, puis il a eu un très fructueux ministère, particulièrement au royaume de Navarre, à l'appel de la reine Jeanne III d'Albret, qui était une petite fille de François Ier, et la mère d'Henri IV, tous deux rois de France. J'ai mal classé. Voilà. Revenons donc maintenant à la formation du triumvirat. Il n'y avait pas plus de 6 mois que la messe avait été abolie que le conseil de ville de Genève adoptait officiellement la réforme, juste 2 mois avant l'arrivée de Jean Calvin. Alors, il y a la formation de Jean Calvin ailleurs, mais maintenant on le voit qui arrive à Genève. C'était un jeune et juriste, et qui se voit aussitôt, naturellement, assailli par le bouillant Farel, qui veut en faire un évangéliste. Mais voilà, Calvin avait dû fuir précipitamment à la cour de France, parce que, en 1534, les réformés avaient, c'est ce qu'on appelle l'histoire des placards. Peut-être que vous connaissez cette histoire. Les réformés avaient écrit des placards où ils disaient tout le mal qu'ils pouvaient de la messe, etc. Et ils avaient mis des placards comme ça dans la ville de Paris. Et des catholiques fervents ont dit « voilà où on va les prendre ». Et ils ont détaché quelques-uns de ces placards, ils sont allés les épingler sur la porte de la chambre à coucher du roi François Ier. Alors, vous imaginerez la réaction, le roi se lève, il trouve ses insultes sur sa porte, évidemment, immédiatement, une offensive contre toutes les réformées. Et c'est là que Calvin a dû fuir, immédiatement. Il s'est d'abord réfugié à Bâle, où il a commencé la rédaction d'un son célèbre traité, n'est-ce pas, l'institution de la religion chrétienne, où apparaît son idée maîtresse, l'évangile seul est source de vérité et de croyance. Sola scriptura. On l'a dans ce récit, enfin ce travail de Calvin. Et cela, ce traité lui a valu une immense renommée tant spirituelle que littéraire, parce qu'en ce temps-là, Calvin a été considéré comme un grand écrivain. Et c'est vrai qu'il a un style très particulier. J'en parle parce que j'ai ses études à la maison. Après cette publication, au printemps 1536, Calvin accepte l'invitation de la princesse Renée de France, qui, elle, à ce moment-là, était duchesse de Ferrare et qui était une fervente protectrice des réformateurs. Mais le pape Paul III a entendu que M. Calvin était à Ferrare, il a ordonné son exil. Et c'est alors qu'il est arrivé à Genève, et c'est à ce moment-là que Farel, n'est-ce pas, veut l'avoir comme évangéliste. Mais lui, il voulait se reposer. Il voulait prendre du repos, continuer ses études. Il voulait retourner à Bâle, être tranquille. Et alors, il a quand même dû accepter, mais un poste, comme lecteur en la Sainte Écriture, refusant obstinément celui de ministre de la parole. Cette première expérience genevoise ne fut pas heureuse. 2 ans plus tard, ayant tenté d'imposer une sévère discipline aux Genevois, interdiction des danses, fréquentation obligatoire du culte, refuser l'immixtion de l'État dans les décisions de l'Église, s'être aliéné le parti des libertins, bien sûr, s'il ne permettait pas la danse, eh bien voilà, il avait des ennemis. Mais les libertins ont été vainqueurs aux élections municipales et Calvin a été chassé par le conseil de ville, mais pas tout seul, avec Farel. Alors, ils se sont installés à Strasbourg et là, ils ont continué leurs études. Mais, après quelques années, 2 ans, il était rappelé à Genève, Calvin, d'abord par Farel qui était retourné, puis par le conseil de la ville. Mais Calvin éprouvait une forte réticence. Et alors, ces réformés, Farel et d'autres, ont écrit à ce fameux Bucer, ce grand théologien de Strasbourg et de Cambridge. Et ils lui ont parlé, ils lui ont dit de le convaincre. Et Bucer a employé un argument très fort pour l'obliger. Savez-vous ce qu'il lui a dit ? Tu connais l'histoire de Jonas. On t'appelle à Genève. Ne va pas à Strasbourg. Alors, devant cet argument, eh bien, le pauvre Calvin a été bien obligé de prendre la direction de Genève. Et cette fois-ci, il y a été reçu avec acclamation. Et les acclamations de la foule ont été pour lui tellement vibrantes qu'il s'est dit, il faut profiter de cette occasion. Et aussitôt, il a mis ses dispositions favorables à profit. Il a réuni une assemblée de pasteurs et de conseillers qui deviendra ensuite le consistoire et dont la première tâche est d'adopter les ordonnances ecclésiastiques. Mais ces ordonnances, elles règlent tout. La vie d'Église, la vie privée, il s'occupe de tout, M. Calvin. Et alors, le consistoire doit adopter ses ordonnances ecclésiastiques et cela est obtenu au mois de novembre déjà. Les ordonnances jettent les bases d'une Église officielle, elles définissent l'organisation de l'Église de même que la séparation des pouvoirs. Écoutez bien ça, hein ? La séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État, on croit rêver. Quand on entend maintenant des Églises qui veulent obtenir des subsides de l'État, elles se mettent sous le contrôle de l'État. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Eh bien, voilà ce que Calvin nous enseigne. Et il l'a obtenu. Et alors, Calvin, tandis que Luther encourage les pouvoirs, la fondation d'Église sous le gouvernement des princes, Calvin érige à Genève un État éducateur étroitement soumis à l'Église. Le Grand Conseil surveillera les membres du consistoire qui sont élus, mais qui ne sont agréés qu'à voir qu'après avoir fait preuve de leur idonéité et de leur foi. Cette vocation éducatrice sera parachevée en 1559 avec l'aide de Théodore de Bèze par la création de l'Académie de Genève. Alors, la fondation de cette académie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle devint une école dans la propagation et l'organisation de la réforme dans plusieurs pays. Souvent, les élèves qui venaient à Genève et qui en repartaient sont partis comme des missionnaires protestants et ils ont eu une influence considérable, souvent au péril de leur vie, dans la propagation et l'organisation de la réforme en plusieurs pays, mais en France en particulier. Et là encore, il y a un mot de Calvin qui est admirable, parce qu'il tâchait d'attirer de partout des élèves. Il voulait avoir des élèves pour les former. Et c'était eux qui devaient partir pour implanter des églises, disons, à l'exemple de ce qu'il y avait à Genève. Et alors, Calvin, qui était un grand écrivain qui écrivait, il avait une correspondance extraordinaire, des milliers de lettres. Il écrivait en France à ses collaborateurs, « Envoyez-moi du bois, je vous renverrai des flèches. » C'est splendide. Et alors, ça a été vraiment un moyen de propagation de la réforme extraordinaire. Mais il y a eu quand même certains côtés moins lumineux dans la carrière de Calvin. Il faut le mentionner, parce que ça est arrivé. Et il y a eu, après son retour en 1541, plusieurs occasions où il a senti une forte opposition manifestée à l'occasion de plusieurs procès qui ont eu lieu à Genève. Premièrement, Jacques Gruet, c'était un libertin. Donc, évidemment, il était opposé en 1547. Bolsec, un adversaire de Calvin, il ne voulait pas reconnaître la prédestination. Bon, 1551. Michel Servet, qui est certainement le plus connu, qui était un théologien anti-trinitaire. Il y avait bien un Dieu, mais pas trois personnes. Bon, on ne pouvait pas le supporter. Alors évidemment, ce procès de Michel Servet a été monté en épingle. Ben, évidemment, Calvin ne pouvait pas tolérer la présence à Genève de quelqu'un qui prêchait exactement le contraire de ce qu'il disait et qui était contraire à la parole sur tout ça. Mais voilà. Le tribunal voulait la matière forte. Alors il voulait absolument que Servet périsse. Et on a retrouvé des preuves que Calvin aurait plutôt préconisé l'éloignement. Mais pour finir, il a été brûlé contre l'avis de Calvin. Ce qui a donné ensuite, évidemment, des occasions à Voltaire, qui n'y connaissait rien parce que c'était bien plus tard, de s'élever contre la religion. C'était rêvé. Mais malgré ces points noirs, n'est-ce pas, malgré les vieux, je ne vois le parti des vieux, je ne vois, malgré les libertins, Calvin, jusqu'à sa mort en 1564, est resté le maître tout-puissant de Genève dont il fit la métropole absolue du calvinisme, la Rome protestante. Alors, pourquoi est-ce que les vieux Genevois était opposé à Calvin. Parce que tous ses élèves qui venaient, Calvin les accueillait à bras ouverts, mais non seulement il les accueillait, il leur donnait la nationalité genevoise. Alors, les vieux genevois, n'est-ce pas, c'est la rue des Granges, il n'y en a pas d'autre. Donc, ils étaient contre cet élargissement de la, de la naturalisation genevoise. Mais malgré tout, il les a accueillis, et surtout ceux qui étaient persécutés. Parce qu'attention, on se rappelle, en Allemagne, Charles Quint, adversaire des protestants. En Angleterre, la fille de Henri VIII, Marie Tudor, disons surnommée Marie la Sanglante, opposée férocement à la réforme. Et en France, les guerres de religion, combien de milliers de victimes cela a fait. Et Calvin, dans son église, avec Théodore de Bèze, les chauffait à bloc, il les renvoyait. C'était des flèches qui partaient. Et ça, c'est été quelque chose de considérable. L'activité de Calvin de 1541 à sa mort est impressionnante. Outre la rédaction finale des articles ecclésiastiques et l'élaboration définitive des ordonnances ecclésiastiques qui font office de constitution de l'Église de Genève, Calvin a rédigé les commentaires bibliques de tous les livres du Nouveau Testament, sauf la deuxième et troisième épître de Jean et de l'Apocalypse. Outre la Genèse, les psaumes et le prophète Ésaïe. Vous avez tout ça en dernière page. Je vous donne où ça a été écrit et où ça à qui ça a été dédicacé. Cette liste met en évidence l'étendue des relations dont Calvin jouissait. Il usait d'une autorité, il écrivait au roi d'Angleterre, à qui il dédiait une étude. Il écrivait à un grand-duc de Lituanie, à qui il dédiait une autre étude. Il avait des contacts considérables et il ne leur disait pas simplement « Excellent prince, je vous dédie cet ouvrage ». Non, non, lisez-le et conformez-vous. Ah non, c'était quelque chose de sérieux. Et alors, il usait dans ses relations avec autorité, avec tous ces personnages auxquels il dédiait ses... Il dédiait ses livres. Et cela a été la source du rayonnement qui en est découlé pour la réforme et la ville de Genève. En atteignant d'aussi importants personnages, ça avait un rayonnement plus bas. Et que dire de ces sermons. Certains ont avancé des chiffres aussi considérables que 5000 sur 18 ans, alors que pour d'autres, le chiffre de 4000 serait plus probable. Mais ils s'accordent pour souligner que le passage biblique proposé de ces sermons était d'ordinaire relativement court. Médité, Bible ouverte et sans notes. Calvin a donc bénéficié jusqu'à sa mort d'un esprit parfaitement clair et lucide, alors que son pauvre corps le faisait terriblement souffrir, en particulier par des migraines et de violentes diarrhées qui l'obligeaient à utiliser la chaise à porteurs pour aller à la cathédrale ou pour aller à l'académie. Et cela lui a permis aussi de nourrir une abondante correspondance avec les plus hautes personnalités politiques de l'époque. Noblesse française, prince allemand, église persécutée. Il s'en détache une remarquable perspicacité politique, exprimée avec modération, fort éloignée des excès de langage et des violences littéraires de M. Luther à l'égard de ceux qui avaient le malheur d'avoir des idées divergentes, tel un Bucer, tel un Mélenchon, tel un Zwingli. En 1561, on estime qu'un tiers des princes du sang de France et de la haute noblesse française sont réformés. On compte environ 670 églises réformées en France. Et plus d'un quart de la population adepte du calvinisme, également fortement implanté en Écosse, en Angleterre, en Allemagne, Palestine, Nassau, Brandebourg, Hesse, en Bohême, en Hongrie. De sorte qu'en Europe, le calvinisme est déjà davantage répandu que le luthéranisme, tandis qu'en Suisse alémanique, les deux se rapprochent entre calvinisme, zwinglianisme. Après la mort de Calvin, il ne se trouve personne pour lui succéder avec la même autorité, quoique Théodore de Bèze ait assumé jusqu'à sa mort. En 1605, on est déjà dans un autre siècle, la direction de l'Académie, avec une indéniable compétence, qui valut à cette maison d'études sa haute renommée. Encore une réflexion, Calvin s'attacha à ancrer profondément le christianisme dans la vie séculière. Et son idéal fut un état théocratique, éducateur, et selon lui, ça c'est pas une citation, destiné à nourrir et entretenir le service extérieur de Dieu et à former des hommes à toute équité requise. Je ne lirai maintenant plus qu'un texte, c'est la conclusion de l'argument du livre des Actes. Je l'ai pris, il y en a d'autres, mais celui-là m'a paru intéressant comme conclusion. Conclusion de l'argument du livre des Actes des Apôtres de Jean Calvin. Si ce livre de Saint-Luc n'était demeuré pour nous servir de registre, on pourrait penser que Christ montant au ciel n'a laissé en ce monde aucun fruit de sa mort et de sa résurrection. Toute mémoire en serait perdue, aussi bien que la présence de son corps. Nous ne saurions point que Christ a été reçu dans la gloire céleste de façon telle qu'il exerce une souveraine domination sur le monde entier. Nous ne saurions point que la doctrine de l'Évangile ait été publiée par le ministère des apôtres afin que de main en main, elle parvienne jusqu'à nous, quelle que soit la longueur du temps entre eux et nous. Nous ne saurions point qu'ils ont reçu le Saint-Esprit pour ne rien enseigner qui ne soit de Dieu, afin que notre foi soit fondée sur la ferme et certaines vérités. Mais c'est magnifique. Enfin, nous ne saurions point que cette prophétie d'Ésaïe a été accomplie dans laquelle il a prédit que la loi sortirait de Sion et la parole de Dieu de Jérusalem. C'est Ésaïe 2, verset 3. Or, puisque ce livre qui est procédé du Saint-Esprit nous rend un témoignage certain de toutes ces choses, j'ai dit non sans raison, et je maintiens encore que nous devons le tenir pour un singulier trésor. Maintenant, la suite, c'est ce que je vous ai annoncé au début et que vous lirez chez vous. Je termine avec cette conclusion. Mais quand on voit le travail qui a été fait, on ne peut que remarquer l'action puissante de Dieu. Malgré les embûches, malgré les dangers, le christianisme, sous la forme du protestantisme, s'est a été ancrée comme une réalité, spécialement dans les livres, dans les pays de langue française, mais en Écosse en particulier, et dans une grande proportion d'Allemagne. D'ailleurs, maintenant, quand vous voyez les grands événements en Allemagne, il y a une ligne verticale. Tous les princes du Sud et les grandes familles princières du Sud, les Württemberg, les Touré-Taxi, les Walburtzel, les Liechtenstein, tous sont catholiques. Le Nord, là où le calvinisme est, le luthéranisme ont été prêchés d'abord. Ils sont tous protestants. Il y a un héritage de ces réformateurs que Dieu a voulu et que il nous incombe de garder et de conserver. Merci. Après, je distribuerai.
De 232 du...